Gloire au Seigneur, nous allons demeurer dans cette attitude d'adoration. Laissez nos cœurs proclamer la sainteté de celui qui nous rassemble ce matin. Laissez nos cœurs s'attarder devant sa face, boire sa présence, manger sa présence. Car sa présence reste et demeure le pain de vie dont nous avons besoin. Nous sommes là devant lui. Et nous voulons lui demander de nous parler, de manifester sa présence au travers de sa parole. Parole qui est aussi ce pain de vie. Le seul pain qui rassasie. Oh, alléluia. Seigneur, merci de nous avoir donné la force de nous tenir devant toi, de nous tenir devant ta face et d'invoquer ton nom, Seigneur. Ça a été des moments extraordinaires, des moments merveilleux qui nous ont permis de nous attarder davantage devant toi, Seigneur, de nous laisser pénétrer par ces rayons de sainteté, de justice et d'amour qui se dégagent, Seigneur, de ta personne. Ça a été des moments, ô Dieu, où nos cœurs se sont prosternés devant toi pour reconnaître en toi le seul, l'unique et le véritable Dieu, celui qui est à la base de toute la création, aussi bien matérielle que spirituelle, mais aussi celui qui est à la base du salut que nous avons expérimenté en Jésus-Christ. Tu as eu une oreille attentive à notre louange, à notre adoration, et nous t'en sommes, Seigneur, infiniment reconnaissants. Maintenant, le moment arrive où nous voulons, ô Dieu, te tendre une oreille plus qu'attentive afin que tu nous parles. Nous voulons, Seigneur, que ta parole puisse recevoir l'accueil qui lui revient, et ce, dans nos cœurs, que nos cœurs soient disposés à accueillir cette semence incorruptible, cette semence vivante et vivifiante, ô Dieu, qu'est ta parole, et que cette parole, alors qu'elle sera reçue dans chacun de nous, Seigneur, puisse accomplir ce travail de régénération, ce travail de transformation, ce travail de perfectionnement, ainsi nous faire ressembler à toi et à toi seul. Bénis ton serviteur, Seigneur, donne-lui cette grâce dont il a besoin pour pouvoir être simplement un outil entre tes mains, certes inutile, mais un outil cependant entre tes mains pour l'édification de ton corps, pour la construction de ta maison. Et en même temps, arrose-nous de ta présence afin que notre intelligence soit, Seigneur, capable de saisir tout ce qui va sortir de ta bouche. Seigneur, merci. Merci pour tout. Parle-nous et que ta parole nous fasse du bien. Amen. Gloire au Seigneur. Veuillez vous rasseoir. Gloire à Dieu. Comme je viens de l'exprimer dans ma prière, eh bien, nous venons de passer des moments merveilleux, des moments extraordinaires dans la présence de Dieu. Ces moments nous ont permis de lui apporter notre louange, notre adoration. Ces moments nous ont donc permis de nous approcher du trône de la grâce. Frères et sœurs, nous ne devons jamais oublier que notre raison d'être, à chaque fois que nous venons dans sa maison, c'est de nous approcher véritablement de lui. Nous pouvons chanter, nous pouvons nous frotter à l'ambiance qui règne au milieu de nous, nous pouvons laisser nos cœurs eh bien, exploser d'une manière ou d'une autre, mais tant que derrière tout cela, il n'y aura pas cette foi ferme dans la parole de Dieu qui nous dit que Dieu est là, tant que notre louange ne sera pas portée par une foi eh bien, vivante, tout cela ne servira à rien. Mais je suis convaincu que tous, non seulement vous, mais également tous ceux qui ont chanté, qui chantent tous les dimanches avec nous via différentes chaînes de télévision, ont été mus par cette foi vivante et extraordinaire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je voudrais revenir une fois de plus sur ce thème qui nous accompagne depuis déjà deux dimanches, revenir sur cette vérité essentielle, sur cette vérité importante, vérité que nous trouvons au cœur et au centre de toute l'action de Dieu vis-à-vis de l'homme. De l'homme, cet être singulier qu'il a fait, qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, cet homme en qui il a insufflé cette haleine vitale qui lui permet non seulement de se mouvoir dans l'espace et dans le temps, mais aussi de pouvoir interagir sur le plan vertical avec son Créateur. Cette vérité, mes amis, n'est autre que la grâce et la grâce de Dieu. Alléluia. Je vais revenir une fois de plus là-dessus. Et comme nous l'avons vu avant de lire le texte qui va nous servir de méditation pour un autre aspect de la grâce, je voudrais donc vous rappeler très brièvement ce que nous avons vu la fois dernière. Depuis le premier dimanche où j'ai introduit ce thème, eh bien, je vous ai amené à travers toute l'Écriture et ensemble nous avons vu comment le Dieu de la Bible, comment le Seigneur de gloire, eh bien, agit vis-à-vis de l'homme. Comment il arrive, malgré l'indignité de l'homme, malgré sa rébellion, malgré, mes amis, son état moral plus que déplorable, comment ce Dieu-là arrive à s'incliner vers lui, à se pencher vers lui pour lui exprimer sa bienveillance, pour l'entourer de sa grâce. Eh bien, nous avons vu que c'est dans sa nature, c'est dans son être d'agir de cette manière. Alléluia. Il est le Dieu de toute grâce. Il est le Dieu compatissant. Il est le Dieu qui est riche en miséricorde, riche en bienveillance, riche en fidélité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et à travers toute la Bible, depuis les premières pages de la révélation biblique, à savoir la Genèse, jusque dans les dernières pages de la Bible, à savoir dans le livre de l'Apocalypse, il est question de Dieu qui agit en vertu de sa grâce. Et à la base de cette grâce, il y a son amour incommensurable. Il y a son amour qui est au-delà de la raison humaine. Il y a son amour, mes amis, qui est intimement lié à sa personne. C'est ce qui a amené certains auteurs de la Bible, sous l'inspiration du Saint-Esprit, à dire que Dieu est amour. Gloire au Seigneur, alléluia. Et la semaine passée, le dimanche dernier, nous avons attiré notre attention sur cette manifestation de la grâce de Dieu envers un individu, mes amis, dont la vie, pour être bref, la vie a été une véritable faillite morale et spirituelle aux yeux de Dieu. Cet homme incestueux, puisqu'il a eu un enfant avec la veuve de son propre fils, cet homme, eh bien, qui a tourné le dos à l'héritage qu'il avait reçu de son père, à savoir, Jacob, de son grand-père Isaac, cet homme désordonné, cet homme au pédigré tout à fait particulier, eh bien, cet homme-là, malgré tout cela, nous le retrouvons toujours en bonne compagnie. C'est ainsi que nous avons vu que cet homme, à savoir Judas, se trouve dans la généalogie du Messie, se trouve dans la lignée messianique. Un homme dont l'existence a été une existence sordide, abjecte, un homme d'une bassesse morale incroyable, se trouve cependant associé au nom du Messie. Puisque non seulement, comme nous l'avons vu, son nom se trouve dans la lignée du Messie, mais c'est aussi son nom de tout le nom des fils d'Israël, de tout le nom de fils de Jacob. Et il en a eu 12, mais c'est le seul nom qui va être honoré au ciel, puisque désormais son nom est associé au titre ou à un des titres du Messie, à savoir le Messie, Jésus-Christ de Nazareth, comme le lion de la tribu de Juda. Comment expliquer, mes amis, qu'un homme, et je reviendrai là-dessus, puisqu'aujourd'hui je vais ouvrir une parenthèse pour attirer notre attention sur une certaine mise en garde par rapport à la grâce. Eh bien, cet homme, malgré cette vie dissolue, corrodé par le mal, cet homme, eh bien, a son nom désormais associé au feu de l'univers, à savoir Jésus-Christ. Et comme je l'ai dit, ça ne serait pas étonnant, et je suis convaincu que nous entendrons souvent ce nom-là lorsque nous serons au ciel, parce que nous proclamerons avec tous les êtres élevés en dignité, avec tous les saints, tous ceux qui seront sauvés avec les anges, les chérubins, les séraphins, les archanges, tous nous proclamerons que l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, est digne d'être loué, est digne d'être adoré. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait, mes amis, que cet homme, nonobstant sa vie morale plus que lamentable, puisse figurer dans la lignée messianique, puisse voir son nom être honoré et considéré là, dans le ciel de gloire? Eh bien, nous l'avons vu, Juda n'a rien fait d'exceptionnel, Juda n'a rien fait qui aurait amené Dieu à se laisser charmer, séduit, pour finalement se voir contraint de lui accorder cette bénédiction. Non, c'est simplement une grâce qui lui est accordée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, et nous avions terminé avec cette parole du prophète Ésaïe pour nous montrer que cette notion de la grâce de Dieu est au-delà de toute compréhension humaine. Eh bien, le prophète Ésaïe s'est exclamé et il nous dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les voix du Seigneur sont élevées au-dessus de nos voix. » Autant ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. C'est ce qui fait qu'il prend quelqu'un qui vient de nulle part, un petit filou, pour un jour en faire quelqu'un d'important. C'est ce qui fait que quelqu'un qui naît dans une paillote, quelqu'un qui naît en brousse, puisse devenir un jour quelqu'un d'important. C'est la providence, c'est la grâce de Dieu. Car avec ce Dieu-là, tout n'est que grâce. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de la grâce de Dieu comme source de salut, mais aussi, et c'est là que je vais attirer votre attention, source de sanctification, afin de vous mettre en garde contre certains enseignements qui circulent aujourd'hui, qui sont véhiculés par certains prédicateurs, dont certains se présentent même comme étant des spécialistes en grassologie. Enfin, j'invente. Hein. La grâce de Dieu, source de salut et de sanctification. Nous allons lire dans 2 Corinthiens, chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6, nous allons commencer notre lecture au verset 14 jusqu'au verset 18. Et puis ensuite, nous lirons le chapitre 7, le premier verset. Nous lisons. Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate, car quelle association y a-t-il entre l'injustice et l'iniquité, ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres, et quel accord entre Christ et Bélial, quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant, quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et moi, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Chapitre 7, verset 1er. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. La grâce de Dieu, la grâce salvatrice, mais aussi la grâce sanctifiante, reste la même grâce qui est à l'œuvre avant la conversion. Pourquoi avant la conversion? Parce que le premier pas que le Seigneur fait Le premier pas qu'il amène en se penchant vers nous, le premier effet de cette grâce, c'est de nous faire prendre conscience de notre état de perdition, de nous faire prendre conscience de notre culpabilité à ses yeux, de nous faire prendre conscience du fait que nous sommes séparés de lui et par conséquent, eh bien, nous sommes condamnés à passer le reste de notre éternité loin de lui, dans ce lieu atroce, dans le feu, dans la géhenne, dans le grincement des dents éternelles, dans la souffrance abominable. Voilà donc le premier effet. Non seulement il nous fait prendre conscience de son état, de notre état, un état de noirceur morale terrible, un état de culpabilité, mais en même temps, cette même grâce, eh bien, nous montre le chemin que nous devons prendre pour sortir de cette voie de condamnation, de cette voie dont l'issue est la perdition éternelle, pour prendre le chemin du salut, le chemin de la réconciliation avec lui, chemin qui passe non pas par une religion, non pas par une croyance, mais par une personne et par l'œuvre que cette personne a accomplie à la croix de Golgotha, à savoir Jésus-Christ et sa mort à la croix. Amen. Voilà, tout ça, mes amis, sont les effets de la grâce de Dieu. Puisque la Bible nous dit, alors que nous étions pécheurs, Dieu nous a aimés et il a donné son Fils afin que nous puissions avoir l'opportunité, la grâce, la possibilité de nous réconcilier avec lui. Alléluia. Mais cette grâce-là ne s'arrête pas à la conversion. Cette grâce va continuer puisque nous allons en avoir besoin. Voyez-vous, le salut n'est qu'un premier pas, mes amis. Le salut n'est que la porte qui s'ouvre sur des réalités beaucoup plus grandes. Le salut nous permet, mes amis, d'entrer en communion avec celui qui devient désormais notre Père en Jésus-Christ. Et maintenant, étant en relation avec lui, une relation filiale, eh bien, nous sommes appelés à marcher avec lui. Alléluia. Mais cette marche ne peut pas être le produit de nos propres efforts. Car, mes amis, nous sommes incapables par nous-mêmes de satisfaire le standard ô combien élevé du Dieu de la Bible. Personne, par sa charité, par sa consécration religieuse, par je ne sais quoi, ne peut arriver à mener une vie qui soit agréable aux yeux du Créateur. Et c'est là qu'aussi la grâce intervient, alléluia, cette grâce sanctifiante. Oui, la grâce de Dieu se manifeste tous azimuts. C'est une grâce multiforme qui est donc censée nous accompagner tout au long de notre pèlerinage ici-bas jusqu'à ce que nous arrivions aux portes de l'éternité et que nous entrions enfin au terme d'une longue et quelquefois harassante marche avec Dieu. Enfin, nous entrons dans le repos éternel. Nous entrons dans la dimension parfaite où nous n'aurons plus besoin de foi, où nous le verrons tel qu'il est, dans sa perfection absolue. Alléluia. Où nous les connaîtrons comme nous aurons été connus. Et gloire au Seigneur. Et donc, comme je le disais, ma prédication ce matin est à la fois un avertissement, une mise en garde, mes amis, mais aussi un encouragement par rapport à la grâce de Dieu qui agit avant notre conversion, qui agit pendant notre conversion, qui continue à agir après notre conversion, c'est-à-dire alors que nous sommes appelés à marcher avec le Seigneur. C'est d'abord un avertissement, une mise en garde. Une mise en garde, mes amis, en ce que nous ne devons jamais laisser des faux enseignements, de fausses doctrines sur la grâce nous influencer au point d'être disqualifiés. Dans ce temps de confusion morale, dans ce temps de séduction spirituelle, mes amis, s'il y a une vérité qui est de plus en plus écrémée, vidée de sa substance, s'il y a une vérité qui est de plus en plus falsifiée, qui est de plus en plus, pervertie, c'est bien cette vérité en rapport avec la grâce de Dieu. Aujourd'hui, mes amis, nous nous retrouvons avec toutes sortes d'enseignements qui poussent les gens au mal en disant, de toute façon, nous sommes dans la période de la grâce. Des enseignements qui sont, mes amis, que nous devons dénoncer absolument. Je n'ai aucune possibilité de marchander avec la parole de Dieu. Je ne suis pas là pour vous dire des choses qui vous seraient agréables à vos oreilles. Je suis là pour vous prêcher la vérité et la vérité toute crue. Car il n'y a que la vérité qui sauve. Mes amis, l'enjeu est de taille. Nous sommes appelés tôt ou tard à quitter ce corps de chair, à quitter ce monde auquel nous sommes tant attachés, cette terre à laquelle nous sommes tant attachés. Oui, un jour nous la laisserons, un jour nous la quitterons pour passer dans l'éternité. Et dans l'éternité, mes amis, il n'y aura que deux endroits. Soit nous serons avec le Seigneur dans une mission extraordinaire, dans son ciel de gloire, dans la félicité et la gloire éternelle, soit alors nous serons de l'autre côté. Mais pour être avec Dieu, mes amis, il y a un prix à payer. Car il y en a qui pensent que la grâce, tout est gratuit. Je ne fais rien, la main dans la poche. Dieu me donne tout, Seigneur donne. Et c'est l'évangile qui est de plus en plus prêché autour de nous, qui amène les gens à voir un comportement plutôt indigne. Ces enseignements qui justifient les choses qui sont injustifiables. C'est pourquoi prêtez-moi votre attention, car il y va de votre éternité. Peut-être vous êtes une de ces victimes de ces enseignements abracadabrantesques. Peut-être que vous êtes victime de ces doctrines bizarroïdes qui sont distillées ça et là par des prophètes, par des apôtres. Eh bien, aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Laisse le Seigneur te parler. Ne dis pas, oui, mais mon prophète m'a toujours dit ça. Tu risques de te retrouver un jour avec ce prophète, mais de l'autre côté. Alors, je ne sais pas comment ça se passera si les gens se battront en disant, c'est toi qui es à la base de ma perdition, au Komonan. Oui. Ils n'auront pas ce temps-là. C'est maintenant, mes amis, que nous devons nous réveiller. Notre âme n'a pas de prix. Soit nous sommes avec Dieu, soit nous ne sommes pas avec lui. Et si nous sommes avec lui, nous devons être comme lui. Car il nous dit dans sa parole, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Soyez saints comme je suis. Voilà pourquoi le texte que nous venons de lire est plus que pertinent. Il nous montre, mes amis, qu'il n'y a pas d'association entre le Christ et Bélial, entre la lumière et les ténèbres. Non. Nous sommes entrés dans une association avec Christ. Vous savez, puisqu'on parle d'association, je crois que c'est Charles de Gaulle, général et homme d'État français, qui a dit ceci à propos de l'association. Il a dit ceci: dans toute association entre deux personnes, il y a toujours une qui se fait porter par l'autre. C'est vrai, hein? Ouais. Ceci est valable dans tous les domaines. Vous voyez, les gens s'associent, dans la plupart des cas, parce qu'ils ont les mêmes intérêts, oui ou non. Ou alors, ils ont les mêmes compétences. Ils partagent les mêmes objectifs. Mais dès lors qu'il y a une égalité de compétences, dès lors qu'ils ne partagent pas les mêmes intérêts, on le voit même avec les coalitions politiques, hein, dès lors qu'il y en a un qui est beaucoup plus compétent, dont les intérêts ne concordent plus avec l'autre, s'entraîne de la distorsion, s'entraîne une certaine tension. Voyez? Car une association, pour qu'elle puisse fonctionner, eh bien, doivent fonctionner plutôt, pour que ça fonctionne, l'association, il faut que les hommes qui en font partie, ou les personnes qui en font partie, puissent se compléter. Oui ou non? Eh oui. Puissent se compléter, se potentialiser. Mais dès lors que ces personnes vont s'opposer, eh bien, cette association est appelée à... Dans l'association, sur le plan spirituel, cette assertion du général est aussi valable. L'association avec Christ
Nous qui n'avons rien,
c'est lui qui va nous porter. Alléluia. Et nous aider à aller de l'avant, malgré les obstacles, malgré, mes amis, les ruses et artifices du diable. Tant que nous sommes avec Christ, tant que nous restons attachés à lui, c'est lui qui nous portera. Mais de l'autre côté, cela est vrai. Ceux qui, hélas, entrent en association avec le diable, puisque le diable est plus fort que toi, eh bien, c'est lui qui te portera. Et crois-moi, lorsque lui te met sur ses épaules, c'est pour t'amener tout droit, sans transit, sans escale, t'amener tout droit dans ces lieux des grincements de dents. Oui, dans ces temps de séduction, ces temps de confusion sur tout le plan, il est important que cette mise en garde soit faite par rapport à ces enseignements qui pervertissent la grâce de Dieu. Mais ma prédication est aussi un encouragement. Un encouragement en ce qu'il est possible, mes amis, quel que soit le contexte dans lequel nous nous trouvons, quel que soit le lieu où nous trouvons, qu'on soit en hémisphère nord ou sous les tropiques, eh bien, il est possible de mener une vie pieuse, une vie qui soit conforme à la volonté de Dieu, de mener une vie marquée par un esprit d'obéissance, un attachement inconditionnel à Dieu, de mener une vie loin de toute souillure, loin de toute impureté, et cela en s'appuyant sur sa grâce. Gloire à Dieu. Personne ne peut dire non. Moi, vu mon passé, oh, vous le savez, j'avais 8 femmes. Je me suis converti, mais c'est toujours difficile. Non, avec la grâce, tout est possible. Voyez-vous, tout dépend à quelle source tu bois. Si tu te laisses délecter par tous ces faux enseignements, eh bien, crois-moi, ces enseignements vont avoir les effets du venin d'une vipère ou d'un cobra royal dans ta vie. Lorsque le cobra, qui est un des serpents les plus venimeux, ou le mamba, vous inocule son poison, son venin, eh bien, vous êtes condamné. Si vous n'êtes pas pris en charge tout de suite, dans les 10, les 15 minutes qui suivent, vous allez mourir, voyez-vous. Et croyez-moi, ces faux enseignements ont les mêmes effets. Que Dieu nous aide à comprendre tout cela. Revenons à notre texte pour nous montrer que la grâce de Dieu, elle est salvatrice, mais elle est aussi sanctifiante. Dieu, dans le passage que nous venons de lire, nous fait quelques promesses très distinctes, très claires. Dans le verset 14 à 16, le Seigneur nous montre ce que nous ne devons pas faire, etc. Et en même temps, il nous donne quelques promesses. D'abord, il promet qu'il habitera au milieu de nous et qu'il marchera avec nous. Notez bien, il habitera. Il ne vient pas pour un petit séjour. Dieu ne vient pas comme un touriste. Il vient pour demeurer. C'est pourquoi, frères et sœurs, et ça c'est ma prière depuis plusieurs semaines, quelques mois déjà, ma prière, c'est que nous cherchons à ce que Dieu habite véritablement, demeure véritablement au milieu de nous, plutôt que de languir ou de soupirer après une visitation. Un jour a toujours un... se déroule dans un laps de temps très court, oui ou non. Mais Dieu n'a pas promis de séjourner au milieu de nous, en nous. Il a promis d'habiter, alléluia, au milieu de nous. Il a promis de marcher avec nous. Celui qui vient donc habiter en nous est aussi celui qui veut marcher avec nous. C'est là que nous voyons la nécessité de la grâce sanctifiante. Car celui qui veut marcher avec nous, eh bien, s'appelle saint. Nous l'avons chanté. Kadosh. Kadosh. Il est le saint. Et si nous voulons marcher avec lui, nous n'avons pas d'autre choix, mes amis, que de posséder ce corps dans la sainteté, que de nous sanctifier jour après jour. Voyez-vous, c'est la seule condition pour continuer à entretenir cette espérance de voir un jour le Seigneur
lorsqu'il reviendra pour chercher son Église, ou alors le voir lorsque nous quitterons ce corps par la mort et que nous nous en irons dans l'éternité. Seuls ceux qui se sanctifient, mais ceux qui mènent une vie permissive, ceux qui s'appuient sur une grâce qui ressemble à la grâce mais qui n'en est pas une, qui mène une vie, mes amis, de désordre, tout en ayant le nom de Jésus dans la bouche, sont condamnés. Réveillons-nous. Jésus a dit, beaucoup en ce jour-là viendront et diront, Seigneur, Seigneur, ah, donc ils l'auront connu, oui ou non. N'ai-je pas fait des miracles en ton nom? N'ai-je pas prophétisé en ton nom? N'ai-je pas chassé les démons en ton nom? Mais je leur dirai ceci, dit le Seigneur, loin de moi, ouvriers d'iniquité, car je ne vous ai jamais... C'est un jugement terrible. Aujourd'hui, il y en a qui évaluent leur succès dans le ministère par le nombre de gens qu'ils rassemblent. Ça, ce n'est pas un critère objectif de succès ou de réussite. Rappelez-vous, lorsque Moïse a fait sortir le peuple d'Israël et qu'il a jeté sur le chemin qui allait le conduire jusque dans la terre promise, à un moment, ils sont arrivés au pied de la montagne de Sinaï. Le Seigneur a demandé à Moïse de monter, d'aller au sommet de la montagne. Et avant de partir, Moïse a laissé des instructions très claires à Aaron. Il devait veiller sur le peuple, n'est-ce pas? Pendant tout le temps que lui serait à la montagne avec le Seigneur. Il est parti et il se trouve que sa présence à la montagne va prendre du temps. Même lui-même ne le savait pas. Il est monté, il pensait peut-être que ça allait prendre quelques heures ou tout au plus un ou deux jours. Mais résultat, il va rester longtemps. Mais entre-temps, ne voyant pas Moïse, le peuple a commencé à s'impatienter. Il se tournait vers Aaron. Aaron, ce Moïse-là, nous ne savons même pas ce qu'il est devenu. C'est un bandit, il nous laisse comme ça. Mais c'était Aaron de défendre son frère, le conducteur que Dieu avait suscité à la tête d'Israël, en disant, oui, il est parti, parce que celui qui vous a délivré est celui qui l'a appelé. Attendons, il va revenir. De toute façon, celui qui l'a appelé est aussi celui qui est avec nous. Voyez? Non. C'est comme si, en lui, Aaron, s'est frotté les mains. Il dit, pourquoi on voit toujours Moïse? C'est aussi une occasion pour moi d'être vu. Et comme le diable est très intelligent, non seulement il a envoûté le peuple, non seulement il a jeté une sorte de voile sur leur intelligence, mais en même temps il va susciter quelque chose dans le cœur de l'homme, à savoir Aaron. Le peuple s'élève et dit, voilà, Aaron, fais-nous un Dieu que nous voyons, un Dieu que nous allons servir. En d'autres mots, fais-nous un Dieu selon notre convenance. Et Aaron n'a pas hésité. Il leur a dit, mais c'est facile. Vos femmes ont des bijoux. N'est-ce pas? Allez donner tout ça en or. Il va prendre ça. Il va préparer un veau d'or. Et après, qu'est-ce qu'il va dire à Israël? Israël, voici ton Dieu. Quelle catastrophe! Mais Aaron était avec les gens, oui ou non? Oui ou non? Et les gens étaient dans la joie, oui ou non? Parce que la Bible nous dit, ils ont même mangé et bu devant l'idole, tout en ayant le nom du Seigneur dans leur bouche. Mais Moïse était seul, hein? Attention, mes amis. On peut rassembler les gens en les manipulant. Surtout dans ce temps de séduction, dans ce temps où l'esprit critique, que certains présentent comme étant un esprit démoniaque, c'est faux. Nous devons faire preuve de jugement et de discernement. La Bible nous encourage. C'est d'ailleurs le thème que je vais exploiter dans une conférence des pasteurs le jeudi prochain à l'église L'Arche de l'Emba sur le discernement, mes amis. Nous devons discerner. Mais il y en a qui s'insurgent contre contre ça en disant, non, la foi, ça veut dire quoi? Hein? Pas la foi du charbonnier, oui. Pas la foi du canard. Non, c'est une foi rationnelle. Je sais pourquoi je crois en Jésus. Oh, alléluia. Je sais pourquoi je lui ai donné ma vie. Pourquoi je le sers. Je ne le fais pas par fanatisme ou par intégrisme. Je ne le fais pas parce que je serai obnubilé. Je serai quelque part obscurantiste. Non. Nous devons exercer notre discernement, notre jugement. Alléluia. Il a rempli des gens, il avait la foule avec lui. Ce n'est pas pour autant que Dieu était avec lui et que Dieu était avec. On peut manipuler les gens comme c'est le cas aujourd'hui. On dit aux gens ce qu'ils veulent bien entendre. À ceux qui ont plusieurs femmes, on dit oui, mais Dieu comprend que chacun reste dans l'état où il était. Et ce qui est terrible dans ces milieux, on brandit ce verset que lorsqu'il s'agit des femmes. Quand il s'agit d'un drogué, on ne lui dit pas non, reste dans ta drogue, dans la condition où tu étais, quand le Seigneur t'a trouvé. Voyez? Pourquoi alors seulement quand il s'agit des femmes, surtout ici chez nous? Voyez? Nous devons faire très attention. Il habitera au milieu de nous, il marchera avec nous. Ensuite, il sera notre Dieu. Il y a donc des conditions. Et enfin, nous serons son peuple. Voilà donc les promesses que l'apôtre Paul nous donne, et sont en rapport avec le Seigneur. Et ces promesses ne datent pas du Nouveau Testament, pas du tout. Au fait, ce sont des propos que nous trouvons déjà dans l'Ancienne Alliance. Et rappelez-vous, ce que je vous avais dit, le Dieu qui agit dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, est le même qui agit dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? L'apôtre Paul, eh bien, reprend simplement ces paroles que le Seigneur a proclamées à plus d'une fois à son peuple d'Israël. Nous montrons par là que ses désirs, que ce soit pour le peuple de l'Ancienne Alliance, que ce soit pour le peuple de la Nouvelle Alliance, son désir a toujours été le même, c'est-à-dire habiter au milieu de ses enfants, habiter au milieu de son peuple, marcher avec son peuple, être le Dieu de son peuple et faire de ce peuple ses fils et ses filles. Voyez-vous, dès le commencement, Dieu a toujours voulu habiter parmi son peuple. Gloire au Seigneur. Et le Saint-Esprit, sous la plume de l'apôtre Paul, eh bien, proclame ces mêmes paroles à l'attention du peuple du Nouveau Testament. Toutefois, comme pour Israël, ces paroles sont assorties des conditions, sont accompagnées des conditions. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il ne dit pas seulement « j'habiterai au milieu d'eux et je marcherai avec eux ». Il ne dit pas seulement « ils seront mon peuple, je serai leur Dieu », mais il ajoute « c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous », dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et moi, je vous accueillerai. Alléluia. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Cette condition n'est en rien différente de ce qu'elle était pour Moïse et les enfants d'Israël. Il a demandé aux enfants d'Israël de se débarrasser des souillures d'Égypte. Voyez-vous? Eh bien, cette condition est encore la même aujourd'hui. Il nous demande de nous débarrasser de toute souillure. Voyez-vous, nous devons, mes amis, nous séparer du système de ce monde. Nous devons nous éloigner du péché, du mal sous toutes ses formes. Nous devons obéir à la parole de Dieu afin de demeurer en lui et avec lui. Gloire au Seigneur. Car si nous n'obéissons pas, nous continuons à brandir la parole de Dieu, nous risquons de connaître un sort terrible. Comme certains des Hébreux l'ont connu. Dans l'Ancienne Alliance, le peuple devait laver leurs vêtements, devait se purifier, se débarrasser de toute souillure. Voyez, il fallait qu'il soit débarrassé de la souillure du pays d'Égypte. Eh bien, dans la Nouvelle Alliance, il n'en est pas autrement. Voilà pourquoi l'apôtre nous dit au chapitre 7 de ce passage que nous avons lu au verset premier, puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, que devons-nous faire? Eh bien, purifions-nous, ô gloire au Seigneur, de toute souillure de la chair et de l'esprit, en développant, non pas de manière partielle, non pas dans un laps de temps bien, mais en développant jusqu'à son terme, jusqu'à ce que la mort, mes amis, nous précipite de l'autre côté, ou jusqu'à ce que le Seigneur lui-même revienne, en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. Mes amis, la grâce est plus exigeante que la loi. Voyez-vous? Les gens ont déjà eu à me poser des questions sur leur dîme, est-ce sur le brut, sur le net? Voyez-vous? Pour certains, c'est tout un débat, oui ou non? Est-ce sur les bénéfices, est-ce sur le capital? Je ne suis pas économiste. Eh bien, la Bible nous dit que dans l'ancienne alliance, il fallait donner la dixième. Je vous laisse le soin de répondre. La dixième, c'est pas un problème. Vous pouvez le dire même si vous ne donnez pas. La dixième partie, n'est-ce pas? Mais j'aimerais vous dire une chose, que sous l'alliance de la grâce, c'est beaucoup plus exigeant. Dieu demande toute notre vie. Il devient celui à qui appartient tout. Si je lui donne la dixième partie, c'est une partie. Je peux lui donner plus après tout. Tout lui, voilà. Dans l'ancienne alliance, il fallait que le premier-né soit consacré à Dieu, oui ou non? Mais dans la nouvelle alliance, ce sont tous nos enfants qui doivent être consacrés. Donc la nouvelle alliance, celle que nous appelons de la grâce, mes amis, est beaucoup plus exigeante comme nous allons le voir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous devons donc parfaire notre sanctification en nous purifiant de toute souillure, de toute impureté, en nous débarrassant de l'esprit du monde et en restant attachés à lui et à lui seul. Il nous est dit, purifions-nous. Voyez-vous? Il n'est pas dit que venez et Dieu va vous nettoyer. Vous restez là, Seigneur, nettoie mon cœur, alléluia. Formidable. C'est comme le car wash, hein? Ici, nous avons encore de jeunes gens qui aident. Vous arrivez, ils lavent votre voiture. Mais dans la plupart des cas, quand ils lavent la voiture, vous restez à bord, non? Surtout quand vous êtes pressé. Et après, vous donnez quelque chose, vous partez. Mais avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Nous ne sommes pas de robots. Les voitures ne peuvent pas bouger. Oui ou non? Vous venez, vous déposez, et puis après, le car wash fait son travail, ou les hommes font leur travail. Mais nous ne sommes pas des robots. Nous ne sommes pas des automates, mes amis, pas du tout. Nous sommes des êtres sensés. Nous sommes des êtres rationnels. Dieu nous a dotés du libre arbitre. Nous devons participer à cette œuvre de purification. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, purifions-nous. Nous devons. C'est à nous qu'incombe cette responsabilité, mes amis, de conduire, de mener à son terme notre sanctification, notre purification. Bien entendu, sans la grâce de Dieu, il est impossible, mes amis, que nous puissions le faire. C'est là aussi que nous voyons la puissance de la grâce. Le Dieu qui nous demande d'être saints comme lui est aussi celui qui nous accorde sa grâce, cette grâce qui nous donne la capacité de pouvoir, mes amis, obéir à sa parole, de pouvoir dire non au mal et oui au Seigneur. Cette grâce qui nous donne le pouvoir, la force d'obéir à la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. C'est par grâce, dont la grâce ne s'arrête pas qu'au jour. Au jour de la conversion, et après la conversion, eh bien, le Seigneur nous aurait abandonnés en disant, maintenant débrouillez-vous, tu dois être saint, tu dois être pur, tu ne dois plus marcher selon l'esprit du monde. Non, même après notre conversion, la grâce est bien présente, alléluia. Elle nous rend capables, mes amis, de nous sanctifier, de nous purifier. C'est ce que l'apôtre Paul explique, toujours dans ce sixième chapitre de 2 Corinthiens, mais cette fois-ci au verset premier, où il dit ceci, « Puisque nous travaillons ensemble, dans notre version de Louis II, quand on dit nous travaillons ensemble, ça peut être Paul et les Corinthiens. Non. Normalement, puisque nous travaillons ou nous sommes à l'œuvre avec lui, c'est-à-dire avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Mais malheureusement, beaucoup d'enseignements poussent les gens à recevoir la grâce de Dieu en vain. Oui, vous le savez, recevoir quelque chose en vain revient à ne pas utiliser tout son potentiel. Voyez, vous demandez un smartphone, S je ne sais combien, ou iPhone combien, 8 ou 10, je ne sais pas combien là. C'est souvent des appareils de plus en plus perfectionnés, avec beaucoup de fonctionnalités, avec beaucoup d'applications. Mais toi, tu ne fais qu'appeler. Tu n'as pas besoin de GPS, tu n'as pas besoin de prendre des notes, tu n'as pas besoin. Oui. Mais simplement pour la beauté, pour qu'on sache que tu es aussi à la mode. Je veux seulement le S. Enfin, j'ai un vieux S, c'est pourquoi je me souviens Samsung S. Je ne sais même pas combien, Note ou... Bref, mais tu vas gaspiller de l'argent pour rien parce que tu ne vas pas utiliser. Pour certains, ils en ont besoin. Vous voyez, ils utilisent le GPS, ils utilisent les notes, ils font de... Comment? Ils ont besoin d'images, après ils retravaillent, enfin bref, ils en ont besoin. Mais bon, beaucoup d'entre nous, c'est simplement pour frimer. Quand on est quelque part, tout le monde doit savoir qu'on a le... Comment? Voilà. Le dernier numéro, enfin la dernière série. Vous voyez? Mais là, vous allez recevoir ça en vain. Un vieux Nokia, à la limite, vous conviendrait mieux. C'est comme si j'envoyais à ma mère un smartphone. Je lui rendrais un très mauvais service. Vous voyez, le chipoter là-dessus et tout ça. Non, elle a besoin de touches, de grosses touches avec les yeux. Vous voyez, avec l'âge là. Voilà, c'est ce qui lui convient. Autrement, je lui enverrai quelque chose qu'elle ne saurait pas exploiter au maximum. Ce serait en vain que j'aurais dépensé beaucoup d'argent pour lui envoyer le dernier iPhone. Elle n'aura que faire de tout ça. Elle aura besoin d'appeler son fils. Comment tu vas? C'est tout. WhatsApp, non, tout ça, c'est... Pour elle, c'est peut-être le ciel. Oui, nous allons terminer par là. Des fausses pensées par rapport à la grâce sont, hélas, insidieusement, progressivement introduites dans nos églises. Des pensées véhiculées par toutes sortes d'enseignements qui dénaturent la notion de la grâce. Des enseignements corrosifs, tendancieux, qui ont fini par pervertir la vérité en rapport avec mes amis, la grâce. Nous retrouvons aujourd'hui des contrefaçons par rapport à la grâce. Vous voyez, pour beaucoup, la grâce, c'est une excuse. Un Seigneur, on trouve même des prédicateurs, même des pasteurs, qui divorcent et justifient cela par la grâce. Qui se remarient? Par la grâce. Qui redivorce? Par la grâce. Qui se re-remarie par... Eh bien, ça, c'est du désordre. Ça ne marche pas comme ça. Oh, ça serait tant facile. Ah non, c'est... Vous savez, la faible est chère. La chair est faible, plutôt. Donc, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Non! Là où il y a la sanctification, là où on vit la crainte de Dieu, là, il y a vraiment la grâce. Vous voyez? Là, la personne montre qu'elle a besoin de Dieu pour avancer. Voyez? Mais là où on a une vie en dents de scie, tantôt le haut, et j'ai même appris une chose terrible. J'espère que c'est simplement des rumeurs, hein. Parce que, disons-nous la vérité. Comme on dit, le linge sale, c'est l'avant famille, hein. Chez nous, en Afrique, on aime beaucoup les ragots, les rumeurs. Oyokaki, hein. Tu as entendu, hein? On a dit ceci. Les gens prennent pour de l'argent comptant tout ce qu'on leur dit. Mais non. Cherchez d'abord à connaître la fiabilité de la personne qui vous dit ça. Ouais. Non. Et j'ai appris. Et comme je vous dis, j'espère que c'est simplement une rumeur, qu'il y a même des prédicateurs qui ont pris ce verset qui dit que là où le péché s'est empli, la grâce a surabondé. Alors pour que la grâce surabonde demain, le lendemain, il faut faire le péché aujourd'hui. C'est incroyable. Alors j'ai même appris qu'il y en a qui couchent avec les femmes la veille, comme ça le lendemain, oh, la grâce surabonde. Mes amis, ça c'est du diable. C'est un aveuglement. Une personne qui se livre à ce genre de choses est en train de se suicider, spirituellement, moralement parlant. Dieu ne peut pas se compromettre. Il ne peut pas demander que nous soyons saints, en même temps nous amener à un comportement de ce genre-là. Non! Ce n'est pas la grâce. Tout cela est le résultat de ce temps de confusion dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Tout cela est le produit de la séduction qui a envahi notre monde et qui est à la base de toutes ces doctrines qui sont véhiculées ça et là. La grâce de Dieu est non seulement salvatrice, mais elle est aussi sanctifiante. Elle nous donne la force, la capacité d'avancer. Oh, alléluia! D'aller de l'avant. Elle nous donne la force de dire non au péché. La grâce est à l'œuvre. Et Dieu ne nous demande jamais de choses que nous ne pourrions pas faire. Il nous demande une chose et il nous donne aussi sa grâce pour ne pas le faire. Si nous le faisons, c'est que nous méprisons sa grâce. Voyez-vous? Car la Bible dit, en lui nous sommes plus que vainqueurs. Donc il y a moyen de se libérer de cet esprit d'adultère dont tu es esclave. Il y a moyen de te libérer de la cupidité qui ronge ta vie, qui t'amène à ne pas payer ceux qui travaillent pour toi. Voyez? Tu ne vois que tes intérêts. Moi, tu ne fais que manger. Cet esprit de lucre te conduit tout droit vers l'enfer. Il y a moyen de s'en libérer, puisque le Fils de l'homme est venu et il a détruit les œuvres des ténèbres. Et en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Et la Bible, pour terminer, parle de la richesse de la grâce multiforme de Dieu envers le croyant, mais aussi dans le croyant. Si par la faute d'un seul, dit l'apôtre Paul, Romains 5, 17, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie? Le seul Jésus-Christ. Régner dans la vie par la grâce de Dieu, c'est mener une vie de sanctification, une vie de purification. Alléluia. C'est la seule vie qui honore le Seigneur. C'est la seule vie qui amène Dieu à sentir ce parfum qui montera de lui et vers lui seul. Prochainement, nous verrons l'exigence de la grâce par rapport à la loi. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons incliner notre tête dans la prière. Nous voulons remercier Dieu pour cette mise en garde par rapport à des enseignements qui dénaturent la notion de la grâce, des enseignements qui écrèment la grâce de Dieu, des enseignements pernicieuses qui, hélas, jettent le gens sur le chemin de la perdition et de la ruine. Ces enseignements qui présentent la grâce comme étant une excuse, une couverture de tout. Non, la grâce, elle est agissante, elle est active, elle est dynamique. C'est elle qui nous donne la capacité de demeurer en Christ, avec Christ, et d'aller de l'avant. Nous bénissons ton Saint Nom, notre Père et notre Dieu, pour ta parole. Merci, car par elle tu nous parles, par elle tu nous avertis. Seigneur, tu vois combien dans ce temps de la fin, l'ennemi est en train de susciter des hommes et des femmes qui n'ont d'autre objectif que de pervertir ta parole, de la brocanter, de la falsifier. Aide-nous, ô Dieu, à ne pas être de ceux-là, mais à recevoir ta parole telle que tes apôtres nous l'ont laissée. à recevoir, ô Dieu, Seigneur, cette vérité en rapport avec la grâce, comme toi tu l'as manifestée et tu la manifestes encore aujourd'hui. Oh, merci d'aider tous ceux qui sont faibles, qui sont conscients de leur faiblesse par rapport à tel ou tel autre péché. Oh, s'il te plaît, accorde-leur ta grâce, que cette grâce agisse et qu'ils expérimentent la délivrance en toi et par toi. Merci Jésus. Merci également pour, Seigneur, ces moments que nous aimerions te consacrer en récoltant les offrandes et les dîmes. C'est aussi une occasion pour nous de te dire merci, de te rendre grâce pour, Seigneur, le travail, les affaires, les opportunités que nous avons de gagner de l'argent. Nous t'en donnons, Seigneur, par amour pour toi, par reconnaissance pour toi. Bénis ces paniers alors qu'ils vont circuler. Et tout cela dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.